La consommation collaborative, effet de mode ou tendance de fond? Plutôt tendance de fond pour les altermardis, parlons solution, à en juger par les nombreux exemples mis en avant lors de cette 98e édition. Pascal Marcaggi a pu y recueillir les témoignages des acteurs de la consommation collaborative, comme avec Airbnb. Airbnb, née sous le Golden Gate en 2008, la plateforme d'échange d'appartements a désormais aussi des bureaux à Paris. De fait, 10 000 logements proposés, dont la moitié à Paris.
Alors Airbnb, c'est une plateforme communautaire qui met en relation des gens qui ont un bien à louer. Alors ça peut être un appartement, une villa et pour certains un château. Et des voyageurs qui ont décidé de découvrir un peu le monde de manière un petit peu différente, de manière plus authentique.
19 000 villes dans 192 pays, de quoi visiter.
Alors c'est vrai que l'aspect, nous qu'on met en avant, c'est l'aspect un petit peu communautaire et social, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste dans un endroit pour le lieu et le logement en particulier, mais il y a aussi quelque chose qui se crée entre l'hôte et le voyageur. Donc il y a cet aspect bed and breakfast dans certains d'entre eux, donc vous pouvez soit avoir une chambre dans un logement de quelqu'un, soit avoir le logement entier si vous venez par exemple en famille. Mais ce qui est très important, c'est le lien qu'on peut créer soit pendant la location, soit avant ou après, entre le loueur et la personne qui vient voyager.
Habiter chez l'habitant, pour autant, on n'est pas chez soi. La confiance doit régner.
Sur le côté hôte, on a une manière pour les gens qui louent leur appartement ou leur bien de vérifier les gens qui viennent chez eux. On peut bien sûr refuser les gens qui veulent venir et qui n'ont pas assez de descriptifs, par exemple, qui n'ont pas une photo de profil, qui n'ont pas de commentaires d'une précédente location. Et on a aussi pas mal de choses qui vous permettent de vérifier que c'est bien la personne que la personne est dit être, que ce soit par une vérification de l'email, de son numéro de téléphone, connexion aux réseaux sociaux. Et enfin, on propose une garantie pour les hôtes. Si quelque chose se passe dans le logement, on garantit l'hôte à hauteur de 35 000 euros. Du côté voyageur, pour être sûr que vous allez arriver dans un appartement qui est conforme à ce qu'on vous a vendu, nous, on propose à nos hôtes un programme de photographie professionnelle gratuite. Autre chose, c'est bien sûr regarder les commentaires des voyageurs qui sont venus avant, puisque seuls les anciens voyageurs peuvent laisser des commentaires sur un hôte. Et dernière chose, en fait, quand vous payez via le site Airbnb, donc le paiement est totalement sécurisé, puisque vous payez en carte bleue ou en virement directement sur le site, nous, on reverse l'argent à l'hôte que 24 heures après l'arrivée dans le logement, ce qui permet aux voyageurs, s'il y a un problème de conformité du bien, d'appeler notre service client qui est disponible 24 heures sur 24. On rebook le voyageur dans un autre logement équivalent dans la même ville.
Pour Olivier Grémillon, Airbnb France, donc, la conso alternative, c'est quoi?
Je pense que c'est quelque chose qui est en train de grossir de manière assez impressionnante. Nous, on propose de la location d'appartements, mais on se voit dans la voiture, on le voit dans l'alimentation, on le voit dans l'échange de services, l'échange de biens qui ne sont pas utilisés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend une ampleur énorme. Si on voit, par exemple, Airbnb, on a fait plus de 5 millions de nuits réservées jusqu'à aujourd'hui, de 2008 à début 2012, dont plus de 4 millions en 2011 seulement. Donc on voit un vrai boom depuis au moins un an de ce genre de service. On pense que ça va continuer sur une tendance similaire.
Que faisait Olivier Grémillon auparavant?
Alors moi, je faisais du conseil aux entreprises. J'ai vécu pas mal aux États-Unis, en particulier à San Francisco, où c'est vrai que ce genre de start-up et de modèle un petit peu innovant et collaboratif ont commencé pour beaucoup. Donc j'ai baigné quand même pas mal dans ce genre d'environnement pendant quelques années.
À New York, la majorité des hôtels est située dans le quartier de Times Square. Airbnb permet de louer dans un autre quartier et plus généralement de visiter une ville, non plus seulement en photographiant les murs aussi mirifiques soient-ils, mais en rencontrant les habitants. covoiturage.fr. Mais c'est bien sûr, l'idée est venue à son fondateur, Frédéric Mazzella, quand pour Noël 2003, il ne restait plus qu'un train à 3h du matin à un tarif exorbitant.
Je devais rentrer en Vendée depuis Paris. Tous les trains étaient pleins, c'était au moment de Noël. Je m'y suis pris très très tard, donc je me suis dit, il doit y avoir des milliers de personnes qui rentrent en Vendée à vide, avec des places dans leur voiture, et si je leur propose 20 ou 30 euros, on pourra partager le trajet. C'est de là que l'idée est née. Et aujourd'hui, donc, covoiturage.fr, c'est quasiment 2 millions de membres, c'est 40 salariés, c'est de l'entraide entre les conducteurs et les passagers, les conducteurs qui ont des places libres et les passagers donc qui voyagent à moindre frais.
200 milliards d'euros, c'est le budget voiture en France. 35 millions de voitures, fois 6 000 euros par voiture et par an.
Les économies réalisées par tout le monde sont tellement grandes que du coup le service peut être financé directement par les utilisateurs. Donc au début on a financé l'activité par la vente exclusive de plateformes de covoiturage pour les entreprises, donc des trajets domicile-travail, et puis ensuite on a développé la prise d'une commission sur les trajets payés par les passagers. Donc les passagers vont payer par exemple 25€ en ligne pour faire un Paris-La Rochelle, on reverse 23€ au conducteur, on garde 2€ et ça permet de faire tourner toute la boutique, tout le site covoiturage.fr.
En 2007, grève monstre de la SNCF, covoiturage.fr publie un communiqué. Le covoiturage, lui, ne fait pas grève. Il entre alors dans les mœurs. Le covoiturage, c'est l'économie faite et la rencontre, bien sûr.
Les voyageurs, comme les conducteurs, découvrent une autre manière de voyager. Le covoiturage, c'est avant tout un partage d'expériences. C'est des rencontres avec des gens généralement formidables. On se souvient très souvent des gens qu'on a rencontrés, des histoires qu'on a racontées. Alors évidemment, c'est beaucoup moins cher, et donc justement cette période où on manque un peu d'argent nous permet de découvrir d'autres manières de voyager qui sont beaucoup plus conviviales et beaucoup plus humaines.
Lorsque Frédéric cherchait son billet de train pour Noël, les plateformes internet de consommation collaborative n'existaient pas. Il y avait bien quelques forums. Internet pour cela est déterminant.
Les réseaux connectés permettent d'avoir accès aux ressources qui sont gaspillées. Donc on peut publier en temps réel des informations sur des ressources gaspillées. Ça peut être une chambre inutilisée dans une ville où tous les hôtels sont pleins et où des gens cherchent à se loger pour moindre prix. Ça peut être des places libres dans une voiture. Ça peut être une voiture non utilisée qui peut être louée à son voisin ou à des gens de passage qui veulent louer une voiture parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, c'est des ressources qui dorment et pour lesquelles on peut afficher l'information comme on peut les utiliser.
Covoiturage.fr, c'est avant tout quelqu'un de très sérieux derrière.
J'ai fait beaucoup de science, rien ne me prédestinait, on va dire, à être monsieur covoiturage. J'ai fait pas mal d'informatique, j'ai travaillé pour la NASA aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de physique, j'ai fait normal sup en physique, où c'était plus très mathématique et très scientifique. Voilà, et puis ensuite, j'ai fait aussi une école d'entrepreneuriat, de business, pour pouvoir justement créer une entreprise qui colle aux besoins qu'on a rencontrés.
Même Total a décidé de jouer la carte du covoiturage dans le cadre de la certification d'économie d'énergie. Total délivre un chèque carburant de 20€ par covoitureur.
Pascal Marcaggi est également allé à la rencontre de la ruche qui dit oui. Oui, mais à quoi ?
Qu'est-ce que c'est alors la ruche qui dit oui ?
La ruche qui dit oui, c'est un service qui permet aux gens de créer des réseaux d'approvisionnement alimentaire. J'irais autonome. Autonome, ça veut dire qu'en fait, une communauté va se réunir, des voisins, et on va leur offrir un outil qui va leur permettre de se connecter avec les agriculteurs qui produisent localement l'alimentation et de pouvoir rentrer en commerce avec eux. Donc voilà, c'est une solution qui permet de créer des petits réseaux d'approvisionnement autonomes et locaux.
La différence avec les AMAP, hein ?
La différence avec les AMAP, principalement, l'idée, ça a été de dire comment on fait pour ouvrir au grand public. Parce qu'on veut, on veut que ça soit ça, pour que ça tire vraiment, qu'il y ait une économie qui vraiment puisse aider à la transformation agricole. Il faut que la majorité des gens consomment comme ça. Et donc, en fait, on a essayé d'offrir un système un petit peu plus souple. Il n'y a pas de contrat à l'avance. On peut acheter ponctuellement dans les ruches, on peut consommer ponctuellement ou régulièrement. Donc déjà, ça permet d'ouvrir un public un petit peu plus large. L'autre différence fondamentale, en fait, on est dans un réseau ultra connecté. Ça, c'est une force. C'est-à-dire que chaque ruche est connectée aux autres ruches, vraiment, très fortement. Les responsables de ruches sont tous en contact ensemble, travaillent ensemble, s'épaulent, s'entraident, progressent ensemble. Les paysans, les producteurs rentrent dans ces réseaux et ils sortent un petit peu de leur anonymat. Et ça, c'est fort parce qu'en fait, ces liens qui se tissent font que le réseau devient fort, prend de l'importance. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir mis en réseau les gens. C'est une force.
Une ruche qui dit oui ne peut pas être urbaine, si ?
Si, si, on a beaucoup de ruches à Paris, par exemple, parce qu'autour de Paris, c'est quand même un bassin de l'Île-de-France de production agricole important. Hein. Même si c'est spécialisé dans plus d'agriculture intensive, il y a encore pas mal de fermiers. On a aussi des parcs naturels, le Vexin, le Gâtinais, la vallée de Chevreuse, avec beaucoup de producteurs. Dans l'Oise aussi, en Picardie.
Qui monte des ruches qui dit oui ? Ou qui disent oui ?
Qui disent oui. Alors, on a beaucoup de femmes en fait qui se lancent dans cette aventure. 90% de femmes. Nous, c'est important que les gens aient du temps pour le faire. Donc ça peut être du mi-temps ou du 4/5 des fois. Des mamans, pas tout le temps. Mais bon, des mamans qui ont des enfants, pour qui c'est important l'alimentation. Bon, la plus jeune, elle doit avoir 25 ans quand même. Ça touche aussi les très jeunes. Et la doyenne doit avoir une soixantaine d'années.
Et les agriculteurs eux-mêmes donc vendent directement à la ruche?
Alors bon, on offre un service vraiment qui permet de le faire très simplement avec une diffusion de leur offre chaque semaine. Il y a des systèmes de paiement principalement qui vont par exemple faire qu'ils n'ont aucun problème de paiement ou de facturation. Tout est fait automatiquement par la plateforme, ce qui est important parce que quand on est en circuit court, on n'a pas un ou deux clients, on en a 500, on en a 1000. Donc la plateforme assume tout ça. Et les producteurs, oui, c'est une vente directe entre les producteurs et les membres de la ruche. Et la facturation se fait directement entre les deux, mais automatiquement, voilà. La plateforme est là pour assumer le maximum de choses que ce que l'informatique et la mise en ligne peut assumer.
Est-ce que la consommation collaborative est une consommation alternative au sens où ça prend une petite place ou c'est quelque chose qui peut être plus important?
Ça se développe de plus en plus. Sur le covoiturage, je pense que c'est le système collaboratif qui est le plus présent dans le grand public, je dirais. Nous, on espère parce que s'alimenter, c'est une question. On aimerait bien que ça devienne une des principales façons de s'alimenter en local, en tout cas. Hein. Pas forcément avec la ruche qui dit oui. Hein. Ça peut être les AMAP, ça peut être les systèmes coopératifs, les marchés. Voilà, il y a plein de solutions. Hein. Mais voilà, collaboratif pour le moment, c'est un peu alternatif, c'est vrai. L'idée, c'est que c'est fait pour essayer de passer le plus possible dans le grand public. Oui.
Il y a le côté indépendant aussi vis-à-vis des grandes surfaces. Ça, c'est important pour le consommateur.
Pour les gens qui viennent, je pense qu'il y a une petite énergie de défiance. Ils viennent aussi parce qu'ils ont envie de changer. Ils ont la sensation d'être un petit peu obligés de faire comme ils n'ont pas envie de faire, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie de l'énergie de changement aussi. C'est un peu le ras-le-bol. Mais bon, ce n'est pas une énergie très positive, le ras-le-bol. Nous, on travaille plus sur le plaisir, la qualité de vie, la qualité relationnelle, quoi.
Cédric Giorgi est membre de WeShare. Cet entrepreneur est en train de créer un modèle de cuisine collaborative à Paris pour les Parisiens. Mais pourquoi pas les touristes? Une belle façon de faire connaissance avec les autochtones.
Vous avez une carte de visite assez étonnante. Comment est-ce qu'on est activiste WeShare?
Alors déjà, je vais présenter WeShare. WeShare est un collectif international qui a été lancé depuis Paris par Antonin Léonard, dont la vocation est d'aider au développement de l'économie collaborative. Moi, étant entrepreneur depuis peu dans cette industrie-là, start-upper depuis quelques années, mais avec une nouvelle idée de service, j'ai eu comme volonté dès le départ de faire avancer l'écosystème en même temps que j'essaie de faire avancer ma propre entreprise. Et donc j'ai rejoint WeShare il y a plusieurs mois maintenant, et en tant qu'activiste, ce qui veut dire aider au développement de l'économie collaborative comme n'importe quel membre WeShare, mais aussi au développement de WeShare, le collectif, donc en aidant à l'organisation d'événements, en aidant à l'organisation de la plateforme média qui est celle de WeShare, l'édition de documents, l'organisation du réseau qui est WeShare. Voilà, c'est ça être activiste WeShare. Et on a utilisé ce mot-là aussi puisque chez WeShare, on se voit comme un action tank, en référence au think tank. Nous, on est là pour agir, donc on est tous des activistes.
Votre autre casquette hein.
Mon autre casquette, ce qui m'intéresse, c'est le moment du repas. Comment connecter des gens qui ne se connaissent pas autour d'un moment de repas? Est-ce que c'est parce qu'ils sont ensemble dans la même ville et ils ont envie de partager quelque chose? Donc, m'inspirer des modèles comme peuvent exister aux États-Unis comme Grub With Us. Est-ce que c'est connecter les gens pour qu'ils fassent le repas ensemble? Donc, on cuisine collaborativement. Voilà, de connecter autour de ce moment-là qui est un moment, qui est un besoin... on va dire essentiel de nos vies, c'est celui de manger. Et en plus, à la base, la cuisine et le repas, c'est quelque chose de social. Donc remettre du social dans quelque chose qui est déjà et social au sein de nos familles ou avec les amis, c'est quelque chose dans lequel je vois, en tant qu'entrepreneur, beaucoup de potentiel.
Parce qu'il y a déjà Polenchin qui existe, mais là, c'est différent. On va au restaurant avec des gens que l'on ne connaît pas, avec des profils, on choisit son restaurant. Alors vous, on pourra faire peut-être la cuisine ensemble.
Voilà, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, Polenchin, qui est donc l'équivalent de Rebusé, j'aurais dû citer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que la collaboration, elle démarre dès le moment de presque de, on pourrait aller faire le marché ensemble, cuisiner ensemble et derrière manger ensemble. Donc c'est prendre et de voir aussi en fonction des typologies, est-ce qu'on n'est qu'entre Parisiens ou est-ce qu'on va accueillir quelqu'un qui vient de s'installer à Paris et on va d'une certaine façon lui montrer, moi j'habite dans le 15e, pourquoi pas faire des repas avec des nouveaux habitants du 15e et je leur montre où aller faire le marché, mes bonnes petites adresses, voilà. Est-ce que c'est les touristes qu'on va faire venir? Vous voyez, c'est toutes ces opportunités-là pour recréer du lien autour du moment de repas. Comme on est en phase de design du service, on regarde et on teste avant de se concentrer sur un domaine en particulier.
« Voilà de beaux exemples de consommation collaborative mise en avant lors du 98e Altermardi Parlons Solutions organisé par le groupe SOS. C'était un sujet de Pascal Marcaggi.